Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash, le podcast où on parle de développement web. Voilà, et comme d'habitude, nous sommes avec Alex, puisque nous sommes deux dans le podcast. Salut Alex!
Salut Patrick, salut tout le monde. Et je suis. Tu vois, je me rappelle, il y avait un boss, je bossais pour une boîte qui me disait, c'est avec une grande émotion. Il commençait toujours ses réunions, c'était avec une grande émotion. Et là, c'est un peu avec une grande émotion qu'on se retrouve pour le centième épisode.
Centième, ouais. Aventure qui a commencé en avril 2020, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
En plein Covid.
Et 4 ans après, on est encore là et on y prend toujours plaisir. On est passé de l'audio à la vidéo.
Ouais.
On est passé sur différents formats, des news, des workshops, des choses comme ça, des invités. Et ça nous plaît toujours autant. Et je pense qu'on pourrait remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette aventure Double Slash. Certains
Ouais.
sont là depuis le départ. Un grand merci à eux. Certains sont arrivés en cours de route. Beaucoup de commentaires, de questions, beaucoup de likes, d'abonnements sur YouTube qui nous ont aidés en fait à gagner en visibilité. Et aussi toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement via GitHub Sponsor, à leurs moyens, à leurs contributions. Et tout ça, un grand merci pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Mais c'est pas fini, Patrick, on est d'accord?
Non, c'est pas fini, non, non. Non, ouais, merci à tous les contributeurs, aux auditeurs, aux visionneurs, parce que sur YouTube, je sais pas, c'est pas des auditeurs,
C'est
c'est
des viewers.
des viewers. C'est vrai qu'au début, on a commencé en audio uniquement, et après, on a basculé tranquillement sur YouTube. Alors, au début, c'était juste un petit peu, on sortait des vidéos sur YouTube. Et puis, c'est vrai que maintenant, on est presque plus sur YouTube qu'en audio, mais on est toujours présent en audio, évidemment, sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et compagnie. Même si Spotify, c'est un peu mieux qu'Apple Podcast, on va dire. Disons qu'ils ont poussé
Ouais.
un peu plus le podcast que Apple,
Ouais,
qui fait rien depuis des années, en fait. Alors que c'est eux qui ont créé un petit peu le support, hein, en
mais
quelque sorte,
complet,
à la base.
complet, complet. Depuis très, 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 très longtemps, Apple a vraiment initié. C'était les précurseurs du podcast. Podcast, ça commence par iPod. C'était le même délire, quoi. C'était vraiment, mais vraiment les premiers. Et aujourd'hui, ils ont un peu délaissé ça. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, quoi.
Donc c'est cool. Ouais, donc comment on avait donc posé sur Twitter, sur YouTube, bah, on avait proposé à tout le monde de poser des questions libres, là, comme vous voulez, sur enfin un peu de tout. Et puis donc on a récolté toutes les questions et t'en as fait un petit slide dev.
Ouais, on a profité pour passer justement pour essayer et tester cet outil de présentation pour créer des présentations à partir de fichiers Markdown. Tout est fait à base de conventions, donc ça marche out of the box, c'est super bien. Sauf que, bah, comme toujours, il faut connaître les conventions et quand tu connais pas les conventions, tu galères, tu cherches et tout. Voilà, on a réussi, rien de bien compliqué. Donc aujourd'hui, en fait, un épisode où on va pas parler de tech spécifiquement sur une techno particulière. On va surtout écouter et répondre à toutes vos questions que vous avez. On va les prendre une par une. Et je pense qu'on fera ça de temps en temps, des épisodes spécifiques où on viendra justement répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, eh ben, posez-les dans les commentaires et on y répondra dans un épisode dédié spécifique. Donc.
Et puis le jour où j'ai la fibre, on pourra faire un live. Parce que pour l'instant, c'est pas possible avec ma connexion. Mais le jour où ils mettent enfin la fibre, ou je déménage, on sait pas, eh ben, on pourra faire des lives avec des questions en live, ce sera cool,
Et
quoi.
ça sera vachement bien. Yes. Allez,
Ouais.
on attaque. Damien qui nous pose une question d'ordre plutôt méthodologique. Comment vous faites pour être aussi régulier? Comment vous vous organisez et structurez le temps qu'on dédie à Double Slash avant chaque épisode? Comment vous préparez et partagez les actualités? Qu'est-ce qui vous motive le plus à tenir le podcast et à contribuer aussi régulièrement? Voilà. Là, c'est plus une question de méthodo.
Ouais, motivation.
Clairement, ouais, sur la motivation. En fait, je pense que la régularité, elle se fait de manière assez simple tant qu'on a de l'actualité. Et en fait, je pense que aussi bien toi que moi, on est toujours un peu en veille sur l'actualité. Donc, on va regarder notre feed Twitter, on va suivre des personnes qui, pour nous, qu'on considère comme influents et qui sont au fait des nouvelles technologies. On va les lire pour nous et si on juge intéressant, on les met dans un Notion partagé. Et une fois qu'on a la quantité qu'on juge conséquente, on la structure, on l'ordonne un petit peu et puis on enregistre. Et là-dessus, ça, c'est, on va dire, c'est le process. Après, sur la régularité, parfois, c'est un peu plus dur, quoi. On va pas se cacher.
Bah, j'arrive. Alors, dans l'ensemble, j'ai essayé de ne pas réfléchir aux questions. Mais celle-là, je l'avais vu passer. J'ai réfléchi à ça, justement, quand j'étais sous ma douche, tranquillement. Et je me suis dit, en fait, à mon avis, le fait qu'on soit régulier, tu vois, et qu'on continue, qu'on soit à l'épisode 100, etc., je pense que c'est dû au fait qu'on soit deux, en fait. Et à mon avis, si tu avais lancé le podcast, toi ou moi, tout seul.
C'est sûr.
Je pense qu'il aurait peut-être pas duré. C'est-à-dire que tout seul, des fois, tu vas louper un épisode, tu vas le faire une fois par mois au lieu de faire deux fois par mois. Et après, tu commences à perdre la motivation, etc. Et là, tous les deux, en fait, on se met un petit peu... on se motive un peu tous les deux. On s'est posé des dates aussi. On dit, voilà, on fait ça tous les mercredis, machin, tout ça. Et à chaque fois, ça nous force, en fait, à être régulier. En fait.
Et complet, parce que quand il y en a un qui est un peu dans le dur, qui a moins envie ou qui est fatigué, l'autre, il est taqué. Et en fait, c'est jamais la même personne qui va pousser ou qui va tirer. Et pour le coup, c'est indispensable d'être deux. Ça a été un grand gage de régularité. Indéniablement.
Ouais, ouais.
Indéniablement.
Puis après, le fait qu'on se partage le travail aussi. Voilà, ouais. Tu t'occupes plus du montage, tout ça. Moi, je fais un peu les textes et tout. Donc, ça joue aussi parce que ça fait un peu moins de travail pour chacun.
Jouer en équipe, clairement.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je pense que notre force, c'est d'être deux, en fait.
Clairement. Mais en même temps, c'est double slash, quoi. Tu vois, il y a double. Cette notion de dualité. soleil froid. Alors, on va reprendre les pseudos que vous nous avez donnés sur Twitter ou sur.
Pas facile.
pour l'instant, on est encore sur du facile. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué. La question est comment on pourrait décrire le métier de dev web et son écosystème dans 10 ans. Alors, c'est nous, notre souhait dans 10 ans. Vers quoi ça va aller. Et après, c'est plus une question de répartition de temps, donc d'organisation au quotidien entre le temps pour les clients, le temps pour les projets perso, notre veille et la transmission à travers ce podcast et comment ça peut évoluer dans le fil des années. Vas-y, sur la projection à 10 ans, tu commences.
Ouais, c'est chaud à 10 ans. À 10 ans dans le web, c'est une éternité, quoi. Déjà, il y a 10 ans, t'imagines. C'est difficile à répondre. Après, je ne suis pas sûr que ça change tellement, en fait. Parce que, disons que ça aurait... Déjà, il y a 10 ans, on pensait que ça allait beaucoup changer. Et finalement, on est toujours sur le même... Tu vois, le PHP est toujours là, etc. Les technos sont toujours là.
On fait toujours
du CSS, du JS. Alors, ce qui a beaucoup évolué, par contre, c'est que c'est beaucoup plus... Alors, les langages ont évolué, les navigateurs ont évolué. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est clair qu'il y a 10 ans. Il y a moins de hacks dans le code, etc. JS, il est super mature. Et c'est un vrai langage. Donc, en fait, c'est plutôt de l'évolution qu'on a eue les 10 dernières années sur de la facilité. C'est vrai que les devs aujourd'hui qui arrivent, ils trouvent ça super simple. CSS, c'est Flex, Grid et tout ça, putain, c'est le top. Donc, je pense qu'en fait, dans 10 ans, je ne sais pas si ça aura tellement changé, à moins que le support change. Aujourd'hui, c'est les navigateurs. Alors, est-ce que demain, le support, ça sera le Vision Pro? Est-ce que ça sera... Je ne sais pas. Après, on nous a tellement prédit de choses qui n'ont jamais pris. À part le smartphone qui a été vraiment une révolution où c'est vraiment un device qui est à part et ça nous a vraiment poussé au responsive, etc. Mais
ouais, mais regarde même ton device, il a toujours un écran avec une taille. Si tu veux, l'interface, elle a pas changé. Je pense que nous, notre métier web pur, je pense que ça va changer un peu légèrement sur les interfaces, mais on gardera toujours notre techno web et c'est la techno web qui se mettra de plus en plus dans les interfaces. Par contre, moi, je suis un peu plus persuadé que notre métier va plus évoluer. Où, tu vois, aujourd'hui, on est méga assisté par, enfin, ou en tout cas, fortement assisté avec des briques d'IA ou des technos hyper spécifiques. Par contre, je pense que la maturité des clients pour utiliser tous ces systèmes-là est de juste d'exprimer son besoin et de traduire le besoin client en langage informatique et utiliser des briques techno, ça, avant que ça soit remplacé, moi, je pense qu'on est très, très large. Tu vois, on est très, très, très large. Donc, le métier pur dev, en mode avec un cahier des charges ultra précis pour pisser du code, on va dire, ça, oui, je pense que ça va sans doute mourir. Par contre, comprendre le besoin, traduire le besoin, exprimer le besoin et toute la partie créativité, ouais, je pense que là il y a une grosse partie qui va pas changer quoi.
C'est clair que l'IA va changer les choses aujourd'hui et ça va beaucoup changer encore. Après, faut voir comment ça va évoluer l'IA, mais ça, pour l'instant ça va très très vite, mais après ça va se calmer un petit peu, je pense.
Oui.
C'est clair qu'on va on sera de plus en plus productif, non seulement par rapport au langage, mais aussi par rapport à l'IA. Alors, potentiellement, oui, il y aura peut-être moins besoin de développeurs dans le futur. Disons que pour une boîte qui a 10 développeurs, ils en ont besoin peut-être que de 5 parce que l'IA te rend plus productif. Nous remplacera pas, je pense, ça c'est sûr, parce que comme tu dis, le jour où les clients seront capables de faire un cahier des charges précis, etc., c'est pas demain. Donc ça c'est bon, de ce côté-là on est tranquille. Mais c'est clair que ça va évoluer, donc c'est vrai que peut-être il y aura moins besoin de développeurs, mais moins nombreux en tout cas. Enfin, c'est ce qu'a prédit en tout cas tout ce qui est Amazon, tout ça. Les grosses boîtes qui aujourd'hui font des prédictions de l'avenir, c'est clair qu'ils pensent déjà embaucher beaucoup moins de développeurs dans le futur.
Yes. Et autre question sur la répartition du temps perso-client, veille, vie perso, vie pro. Toi, tu t'organises comment ?
Écoute, alors déjà, nous, on est indépendants tous les deux. On est donc à notre compte. Donc, c'est un petit peu différent que si on était salarié. Donc, on a quand même plus de liberté à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que, par exemple, là, on enregistre, on serait salarié, on ne pourrait pas enregistrer comme ça le matin, en plein milieu de matinée, ça, c'est clair.
Bah ouais.
À moins que notre employeur soit super open, mais je ne pense pas. Non, moi, perso, j'essaie d'avoir un bon équilibre. Donc, déjà, je ne travaille pas le week-end, tout ça. Le soir, j'essaie de couper. Je ne travaille pas le soir, la nuit, tout ça. Donc, j'essaie d'avoir un équilibre, une santé mentale normale à ce niveau-là. Voilà, que le boulot ne me bouffe pas la vie perso. Après, on est assez sportifs tous les deux. Donc, moi, je fais beaucoup de sport. Donc, ça me permet aussi de beaucoup évacuer. Et c'est hyper important. Je suis incapable de vivre sans faire du sport. Donc, là, en ce moment, je cours beaucoup, mais ça peut être le vélo, ça peut être n'importe quoi. Et puis le podcast, le podcast ça prend pas énormément de temps, c'est aussi la chance qu'on a par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, hein. On prépare les news, on les note au fur et à mesure, etc. Après l'enregistrement, mais c'est pas aussi un temps énorme. C'est vrai que si on faisait plus de workshops, tout ça, ça serait un peu plus compliqué, mais non, ça va, pour l'instant l'équilibre il est correct en fait. Et après ça dépend, il y a des moments de coup de bourre où on a vraiment beaucoup de projets. Comme là, pendant 2 mois, là, j'ai eu beaucoup de trucs à faire, donc c'était un peu plus compliqué, mais on arrive toujours à équilibrer. Voilà. Et toi ?
Ouais, c'est compliqué. C'est toujours précaire, moi, je trouve. C'est quelque chose qui évolue tout le temps, tu vois. Alors moi, j'ai la chance d'être moniteur de ski aussi l'hiver, donc je m'octroie 4 mois de l'année où je suis un peu plus off côté code, même si l'année dernière, j'ai fait double emploi. Mais tu vois, il y a une notion en ski qu'on utilise, c'est on n'essaye pas de chercher l'équilibre, on apprend à gérer le déséquilibre. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, j'ai jamais l'impression d'être toujours bien proportionné sur mon temps client, mon temps pro, perso, tout ça. Pour moi, c'est tout le temps, je dois toujours me poser la question. Sinon, en fait, je vais me faire croquer. Et je m'en rends compte souvent trop tard que je me suis fait croquer sur mon projet client ou je suis complètement à la bourre parce que j'ai pris trop de temps perso. Et donc, ouais, moi j'aurais plutôt tendance à me faire niquer et à bosser beaucoup trop et à m'en rendre compte a posteriori que j'ai trop bossé et je m'arrête que quand je suis vraiment au bout. Donc, c'est pas bien. J'apprends avec le temps, mais ce qui est sûr, c'est que ces moments tu vois, où on échange sur le podcast ou à travers des workshops qui sont, comme tu dis, bien plus chronophages en termes de préparation, mais sur ces émissions de podcast, moi, ça me fait du bien, c'est cool. Ça... Et, cette notion de transmission, elle est hyper importante. Je pense que la transmission nous anime et donc c'est important en fait de mettre les grosses pierres. On connaît tous l'image du seau là où tu mets les choses les plus importantes dans le seau en premier, puis après tu rajoutes ce que tu veux. Voilà, c'est toujours compliqué et c'est quelque chose qui évolue dans le temps. En tout cas, moi, j'arrive pas à trouver une semaine type. Dire ok, là tous les lundis je fais ça, tous les mardis je fais ça, tous les mercredis je fais ça, j'y arrive pas, je me force à le faire parce que sinon il n'y a rien qui sort, mais c'est très difficile et c'est reste toujours précaire et il faut constamment le réévaluer.
Ah
Difficile,
ouais, non, mais
très très
tu
difficile.
regardes, de toute façon, surtout comme avec les clients, des fois ils sont toujours pressés, c'est toujours pour avant-hier, etc. Donc, ça aussi, il faut savoir temporiser les clients pour leur dire bon, ok. Mais oui, on a tendance à toujours. En fait, c'est ça, notre. Enfin, on est toujours. Enfin, personnellement, moi, j'ai toujours. C'est un peu en montagne russe. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais avoir beaucoup, beaucoup de travail. Et là, ça sera super speed. Et à des moments, comme là, en ce moment, là, c'est un peu plus cool. Donc, voilà, c'est hyper variable. Après, c'est peut-être différent si tu es dans une agence ou des choses comme ça. Alors, les agences, moi, pour ceux que je connais, ils sont toujours à bloc. Mais eux, c'est montagne russe, mais tout le temps en haut, en fait.
Moins drôle. Beaucoup moins drôle.
Ouais.
Allez, on bascule sur une question, pour le coup, un petit peu plus tech. On revient sur de la tech. C'est Nicolas. Vous avez marqué que les LLM dans le navigateur CLI ou IDE, ça bouffe beaucoup de ressources clients. Je croyais que ça passait tout côté serveur. Je galère parfois. Est-ce que c'est normal? L'IA nous aide à coder. Vous en pensez quoi? Ça va plus vite? Et est-ce qu'il faut acheter une machine de gamer pour utiliser tout ça? Alors, il nous invite à créer un petit moteur de recherche pour les épisodes.
Alors,
Ça serait au top et ça nous aiderait à trouver tout facilement les pépites. Allez, je vais commencer par la dernière question parce que je suis en lien direct.
ouais, sujet ouvert depuis un moment.
Vrai sujet. Non, pour le coup. On a prévu de faire ça. Moi, je voudrais vraiment mettre Mélisearch devant, en fait, parce que le site internet de double slash est fait avec Nuxt. C'est moi qui ai codé et qui ai fait le module open source de Nuxt avec Mélisearch. Mélisearch est une solution de moteur de recherche interne, ultra rapide, efficient, tout machin. Sauf que, on va dire, mon projet client me prend beaucoup, beaucoup de temps et j'ai avancé un peu là-dessus. Sauf que peut-être j'ai ouvert la boîte de Pandore dans la mesure où on dit OK, on va faire toutes les transcriptions, on va mettre les transcriptions, après on va mettre des embeddings, on va. Voilà. Donc en fait, je me suis rentré dans une grande, grande mission. Et pour l'instant, elle est pas encore terminée. 2025, je peux m'engager. Il y a un moteur de recherche
Fais
sur
gaffe,
double slash.
le début
Ouais.
ou fin 2025?
J'ai dit 2025. J'ai dit 2025. Tu prends la question LLM côté client ou?
Ouais, bah écoute, je sais pas trop parce que non, je vois pas, enfin, je sais pas trop de quoi il voulait parler. Si c'est quoi, chat GPT, tout ça, est-ce que quand tu utilises chat GPT, ça bouffe des ressources côté client? Et effectivement, j'ai jamais remarqué ça personnellement.
Ouais, après, là, j'avoue, je suis un peu surpris parce que normalement, en fait, c'est plutôt. En fait, c'est ton entraînement de ton modèle qui va vraiment être chronophage en ressources et en CPU, tout ça. OK. Après, si tu utilises pour ce qu'on appelle l'inférence, donc en fait, c'est la consommation d'un modèle, tu vas poser ta question, ton prompt, et lui, il va te répondre. Toute ton inférence, si tu l'as fait sur des serveurs type OpenIA ou Mistral ou tout ça, ça va être la ressource va être déportée, donc elle n'est pas chez toi. La seule possibilité, c'est si tu héberge en fait ton propre modèle et avec des solutions type Ollama où tu viens en fait héberger ton propre modèle et le modèle tourne sur ta machine. À ce moment-là, évidemment que ton inférence va te coûter de l'énergie. Mais si tu es sur des sites internet avec des serveurs distants, normalement ça devrait pas croquer de la ressource, quoi.
Ouais, mais après, même si tu es en local, tu vas bouffer de la ressource de ton ordi, mais après,
Oui.
le navigateur, ça, il ne devrait pas monter en
Non.
ressources, donc c'est bizarre. À moins que. Alors après, il y a des librairies JS qui sont capables d'effectuer des choses au niveau du navigateur pour comparer des chaînes, tout ça. Donc, il y a des choses disponibles, donc c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des trucs comme ça, ou du Wasm, ou des trucs comme ça, je ne sais pas. C'est assez étrange.
Avec des workers,
Ou
ouais.
préciser un peu plus enfin, le cas d'usage. Mais après, il y a Edge aussi qui a intégré l'IA dans leur navigateur. Alors, est-ce que ça, c'est bien. Bon, après, je fais confiance à Microsoft pour bien intégrer les choses. Mais ouais, étrange. Ouais, il faudrait avoir plus de précision sur le. Ça nous intéresse, tiens, de
Ou alors,
savoir dans
tu
quel
vois,
cas d'usage.
si justement ils utilisent des workers pour exécuter des requêtes, enfin de prendre de la ressource machine sur le client pour justement exécuter des choses que eux n'ont pas à faire.
Ouais,
Je
étrange.
sais pas. Après, sur la question IA, on en pense quoi pour coder? Est-ce que ça va pas poser des soucis plus tard? Moi, je pense pas. Je pense que ça c'est que du bénéfice et c'est comme on le dit souvent, hein, c'est un super assistant qui va nous accompagner et qui va nous aider et qui va nous faciliter la vie nous en tant que dev.
Ouais.
Et on voit qu'il y a de plus en plus de contexte. L'IA prend de plus en plus toute la code base et donc il va aussi apprendre avec tes conventions de nommage et donc il va devenir de plus en plus malin. C'est indéniable. On le voit sur les 2 dernières années entre la première version de Copilot et les derniers assistants qu'on a. Le progrès est quand même plus que significatif. Donc, je pense que ça va plutôt dans le bon. Moi, je le vois plus comme un super assistant. Après, est-ce que on a besoin de faire tourner des machines, d'acheter une machine de gamer pour faire tourner ça? Je pense pas.
Ouais, parce que t'as déjà une machine de gamer. Le mec, il a
Non,
déjà un super ordi.
c'est
Non, si,
pas
ça peut quand
vrai,
même
c'est
monter
pas
vachement
vrai.
les ressources. Si, ça peut quand même monter les ressources, mais après, ouais, si tu réfléchis un petit peu coder avec l'IA. Alors, moi, déjà, Super Maven en ce moment, je sais pas si je suis le seul. Enfin, apparemment, je suis pas le seul parce que Yoann Dev a le même problème actuellement. J'utilise Super Maven et je trouve qu'en ce moment, il répond pas terrible, il est lent, des fois j'ai pas de réponse et enfin je le trouve de moins en moins performant. Alors peut-être que voilà, il a trop de succès et qu'il y a trop d'appels et ils n'arrivent pas à répondre. Mais là en ce moment ma Super Maven il marche très mal et je me demande si je vais pas repasser sur Copilot parce qu'en fait je paye 10 $ pour pas grand-chose, ce qu'ils mettent quasiment pas. Alors le revers du truc c'est alors nous on est on va dire senior entre guillemets, on est développeurs, on est capable de lire le code de l'IA qu'elle nous génère etc. et de corriger. Est-ce que par contre, pour des juniors, tout ça, d'utiliser l'IA, ça ne va pas leur donner des mauvais réflexes. C'est-à-dire que le code est déjà mâché, il est sorti. Alors déjà, il faut le lire, l'analyser et dire, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Attends, je vais corriger ça parce qu'il y a une connerie là. Déjà, ça, il faut être capable de le faire. Et puis derrière, est-ce que ça ne va pas donner des mauvaises habitudes comme quoi bah, je ne vais pas chercher la doc, je ne vais pas approfondir dans la doc pour comprendre comment ça marche parce que j'ai l'IA qui me sort le truc et puis voilà. En fait, est-ce que ça ne va pas devenir feignant en fait, en tant que dev, puisque l'IA fait notre boulot et que finalement on n'a que de la relecture ou...
Ouais, là-dessus, je te rejoins totalement. Je pense que c'est très bien. Néanmoins, tu dois quand même comprendre ce que ton IA te sort. Et si tu prends ça pour argent comptant, bah, tu t'exposes parce que des hallucinations, elle en a. Donc, tu peux pas donner un trust à 100% sur ce qui sort de l'IA. Par contre, sur de la doc, tout ça, elle va être super, super maligne. C'est indéniable, ça va te faire gagner du temps. Par contre, c'est comme tout. Le côté magique, si à un moment donné, tu comprends pas la magie, ça va se retourner contre toi. C'est gros pouvoir, grosse responsabilité. Mais si tu sais pas maîtriser tout ça et t'as pas compris les tenants, les aboutissants de ton code, clairement... ça se trouve, il va faire des trucs complètement débiles. Donc, il faut toujours garder un esprit critique. Et cet esprit critique, c'est toujours la même chose. Tu dois connaître ta techno. Par contre, c'est un super moyen pour apprendre. Ouais. Tu vois, j'ai vu là en SQL, il a sorti un truc. C'est quoi ça? Bah, si toi tu vas chercher la doc, tu vas découvrir. Potentiellement, ça peut être un super assistant ou un super enseignant pour te faire monter en compétence sur des sujets. Par contre, c'est à toi de toujours garder, on va dire, ton esprit curieux et d'aller chercher et d'essayer de comprendre ce que ChatGPT te sort ou tu ressors ou n'importe, te sort tout prémâché. Ok, c'est bien, ça fonctionne, mais ça, c'est le niveau 1, quoi. C'est le ça fonctionne, c'est vraiment le niveau 1. Il faut comprendre les tenants, les aboutissants, savoir comment ça évolue, pourquoi, comment. Et ça, il n'y a pas de choix. T'es obligé de l'apprendre. Et tu dois aussi choisir tes batailles parce que tu ne peux pas tout apprendre tout de suite. C'est impossible. Donc, tu choisis de mettre ton focus sur un sujet, tu montes en compétences et puis après, tu passes sur un autre sujet et sur un autre sujet. Mais il faut garder en tête que garde ton esprit critique et monte en compétences. Toi, ça, on ne pourra jamais te l'enlever, quoi. Tu vois.
Ouais. C'était quoi il y avait une autre question, non? C'était quoi l'autre on a tout répondu, je crois.
Ouais, c'est à peu près bon. Ouais. Okay. On parlait de senior. Il y a Amin B. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Étant senior, je suis plus amené à diriger des équipes, tant au niveau fonctionnel qu'au point de vue des PR, qu'à coder, expérimenter. Ok. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Comment vous faites-vous pour vous protéger du temps conséquent dédié aux devs sur la gestion des équipes? Tu vois, on parlait tout à l'heure de gérer en fait des personnes et en fait, ça va être sur quoi tu mets ta grosse pierre. Tu vois, on parlait tout à l'heure des sauts et des grosses pierres. En fait, c'est quoi le plus important de ta journée? Si ta mission première, elle est d'être avec les équipes et de faire ta montée en compétences sur des équipes, et c'est la chose que tu dois faire en premier. Par contre, si tu as pour objectif et ta mission première, c'est d'expérimenter, et tu mets ça le matin et l'après-midi et tout. Donc en fait, le danger, c'est de se faire croquer parce que tu sais très bien que quand tu fais de la montée en compétences sur des devs, tu vas passer vachement de temps à expliquer des concepts, à expliquer ton code, à relire ton code ou à voir comment on peut le faire évoluer. Et ça, c'est hyper chronophage. Donc ta journée, elle dérive, tu vois. D'où l'importance en fait de bien mettre la chose la plus importante en début de journée. Par exemple, si tu dois coder et expérimenter des choses, tu fais ça le matin et ton après-midi, elle est dédiée aux équipes, tu vois. Et ça, c'est un très très bon moyen de t'organiser ton temps. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une organisation de temps. Personnellement, je n'ai pas eu à gérer pendant des années des équipes. Par contre, quand j'ai eu des juniors avec moi, j'étais obligé de faire ça. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
Bah, là je ne sais plus comment il s'appelle. C'était comment son nom? Je ne sais plus. A priori, ça lui manque de coder. Celui qui a la personne qui a mis le commentaire. Et je le comprends. Donc, je pense qu'en fait, il est lead dev en quelque sorte dans sa boîte et qui se retrouve à gérer en fait les devs en dessous. Alors évidemment, il fait que du management et de revue de PR, parce que voilà, c'est le senior et c'est le mec c'est le meilleur en fait. Donc forcément, alors, en général, de toute façon, les revues de PR, c'est tout le monde qui se les fait, hein, puisque tu as plusieurs personnes qui vont relire une PR avant de la valider. Mais enfin, moi perso, ça nous est pas, on n'a pas de gestion comme ça de personnes, puisqu'on est on est indépendant et donc on s'intègre plutôt à des équipes. Donc c'est un peu différent. Après, moi ça m'est arrivé d'être intégré dans une équipe pour un projet dans une boîte. Et après, oui, je formais un petit peu le dev en interne, notamment sur Next ou des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment de la gestion. Alors je comprends. Après, difficile quand tu es dans une société de, t'as jamais le temps de. Enfin, s'il n'y a pas le temps de coder, il n'y a pas le temps de coder. Donc après, ce qui lui reste, c'est de coder un petit peu à côté, en side project, des trucs comme ça, pour s'amuser, expérimenter. Mais à moins que la boîte lui donne un style 20% de son temps pour coder et tester les trucs, comme ils font chez Google. Mais ouais, le problème, c'est que quand tu es le lead dev, tu es obligé de gérer tout le monde, quoi.
Ouais, et puis pour le coup, si tu es sur aussi des questions stratégiques ou intégrées dans le processus de décision, tout, où tu es à moitié CTO, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Parce que faut pas se leurrer, il y a plein de boîtes où le lead dev, c'est le CTO, puis en fait, il y a deux devs. En fait, c'est une équipe de trois, quoi. Mais quand le market a un projet ou un truc, ils sont obligés d'en parler au CTO pour voir les impacts que ça a. Donc, au final, t'es au four et au moulin et tu t'arrives plus à coder, quoi. C'est très, très difficile.
Si le code te manque, il faut. Pour passer développeur simple développeur. Ouais. Voilà, c'est la seule solution.
Mais quand tu gères que l'admin ou des hommes et de la revue, encore de la revue de code et de la montée en compétences, c'est quand même assez sympa. Hein. C'est quand même super cool. Sympa. Mais quand tu n'es pas sur de l'archi ou sur des trucs théoriques, tu vois, et au final, tu n'es plus dans le concret. Quoi. C'est totalement.
Après, quand tu passes tes journées à faire des revues de code de PR et tout, là, ça va, quoi. C'est vite saoulant, quoi.
ça doit être dur. Tu parlais tout à l'heure de Next. De Next, tu avais fait de la montée en compétences sur Next. Patrick, je crois que la question est plus pour toi. Comment vous organisez l'architecture des dossiers sur Next 15 pour une application complète? Ça m'intéresserait de savoir comment vous structurez les pages, les composants, les hooks, la gestion des états, l'intégration des API, tout ça. Est-ce que vous utilisez des conventions? Quelles sont les best practices que vous utilisez? Qu'est-ce qui guide vos choix? La maintenabilité, la perf, le déploiement? Et si vous gérez aussi des trucs comme l'internalisation, des tests, l'optimisation des performances, ça serait cool d'avoir des détails, surtout sur les nouveautés de Next.js 15.
Ça mériterait presque un épisode entier mais sur cette question. Mais
pour le coup, je suis complètement d'accord que sur la structure, tu vois, on pourrait faire un épisode en complet, quoi.
Tous les deux, on fait. Alors toi, tu es plutôt Next, enfin t'es Next, on va dire. T'es pas plutôt, t'es Next. Oui. Moi, je fais du Next aussi beaucoup et du Next. Je fais les deux. Next, il y a vraiment une convention de dossiers, etc. Voilà, t'as une structure, tu structures comme c'est défini. Il y a une convention et en plus il y a l'auto-loading de components et tout ça. Chose qu'on n'a pas du tout dans le monde React et dans Next. Et ça a toujours été comme ça en fait. React, ils ont toujours été sans convention au niveau de ton projet. Tu fais vraiment comme tu veux. Il y a vraiment aucune règle. Donc après, évidemment, il y a des règles qui sont plus ou moins suivies par la majorité, mais il y a aucune convention à ce niveau-là. Next.js 15, c'est la même chose que le 14 ou 13, parce que de toute façon, il n'y a pas eu d'évolution depuis la 13 avec le APP. Donc, ce qu'il faut favoriser, c'est la maintenabilité, ça c'est clair, et savoir retrouver les choses facilement. C'est-à-dire que si tu arrives dans un projet que tu as codé il y a 6 mois et que tu arrives dessus et que tu ne trouves pas les choses, c'est qu'il y a un problème. Déjà, si tu ne sais pas où il est ton store, si tu ne sais pas où ils sont tes hooks, c'est que ça veut dire que c'est le bordel, que c'est mal rangé, etc. Moi, en général, alors j'ai regardé vite fait là, sur un des derniers projets de Next que j'ai fait. Alors, il y a toujours le débat entre est-ce qu'on met tout dans APP ou est-ce qu'on met à la racine. Voilà. à débattre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mets dans APP, en fait, tant que tu veux mettre des dossiers tant que tu veux, tant qu'il n'y a pas de pages dedans, enfin de pages dedans, .tsx ou .jsx, en fait, ce n'est pas une route. Donc, il n'est pas considéré comme une route. Donc, ça, à ce niveau-là, tu peux mettre tout ce que tu veux. Donc, dans le dernier projet que j'ai fait, j'ai mis tout dans APP. Et après, je sépare. Donc, le store, bah, j'ai un dossier store. Les hooks, j'ai un dossier hook, etc. etc. Si j'ai une API, si j'ai des calls vers une API, bah, je vais les structurer dans un dossier API s'il faut. Voilà, je sépare vraiment les choses dans des dossiers pour que ce soit rangé. En fait, c'est comme quand tu rangerais ta chambre ou ta maison. En fait, tu ranges dans des tiroirs, etc. Bah, voilà. Donc après, je suis peut-être influencé aussi par Nuxt aussi, qui a aussi ce genre de dossier, etc., où c'est vraiment rangé le store et tout ça. Mais voilà, généralement, c'est surtout la maintenabilité, la lisibilité dans le futur, que ce soit pour nous, en tant que dev, ou les autres personnes de l'équipe, qu'ils arrivent à trouver les choses facilement. Donc voilà.
Voilà. Ouais. Après, tu vois, moi, juste pour compléter, là, pour le coup, c'est beaucoup plus global sur la structure, mais ça m'arrive souvent de revenir sur un projet, on va dire, tous les 6 mois. J'ai mon client qui me rappelle, qui me dit « Ouais, vas-y, on fait une évolution, il faut faire ça, ça, ça. » Quand il me verbalise la demande, je suis là « Mais oh, putain, non, je vais être obligé de tout refaire. » Ou, tu vois. Et en fait, quand tu arrives sur le code et tu changes 3-4 lignes, tu mets ta condition, tu mets ta fonction, tu vois, tu fais ta dérivation. Et quand tu arrives et que c'est le bordel, bah, tu t'en veux, tu te maudis. Et moi, je l'ai eu plusieurs fois. Et maintenant, en fait, tu dis, OK, je vais prendre peut-être un quart d'heure de plus ou 10 minutes de plus ou peut-être parfois une demi-heure de plus pour refacto, mais de telle manière que ça soit clean, propre. Et demain, en fait, ton futur toi te remercie déjà, quoi. Tu vois, parce que quand tu arrives sur le projet et on t'a demandé une modification parce que la règle a évolué, tu arrives sur le projet et tu mets 3 lignes. Et baf, ça marche directement. C'est super jouissif. C'est super jouissif. Donc, ça fait. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est la maintenabilité et l'évolution, parce qu'il y aura toujours des évolutions. À part si tu fais du clean, enfin, du code poubelle, quoi, où tu sais que ça va mourir dans un an.
Ouais,
la durée de vie, bon, là, OK, tu fais du quick and dirty et c'est pas grave. Mais si tu sais que ce projet a pour vocation de durer dans le temps, et aussi, toi, en tant que commercialement parlant, tu vois, là, on sort de l'aspect purement tech, mais commercialement parlant, que tu sois un dep, free ou en agence, bah, en fait, ton code, potentiellement, c'est toi qui vas le récupérer, quoi. Donc, est-ce que tu as envie d'être sympa avec toi ou tu te mets toi-même des bâtons dans les roues, tu vois? Donc, c'est à toi de voir. Mais c'est vrai que parfois, ça peut prendre du temps. Après, sur l'internalisation, ouais, moi, j'ai pas mal joué avec ça. Ce qu'il faut garder le concept, ce qui est le plus chiant, c'est ta première langue. Voilà, c'est tout. Après, que tu en aies 2, 3, 4, 5, 7, ça change strictement rien.
Ouais.
Parce que le taf est fait, en fait. Donc, c'est pas gênant. Et plus tu fais ça tôt, et mieux c'est aussi. Tu vois, et plus tu mets des clés, tu internationalises ton appli le plus tôt possible. Comme ça, tu as mis des clés partout et tu as rentré les clés de traduction. Et ça, c'est peut-être le truc le plus chiant à gérer. Et après, une fois que tu as toutes tes clés, bah, tu as ton fichier FR, tu as ton fichier EN, tu as ton fichier ES. Allemand et italien et tout ce que tu veux. Après, ça marche plutôt bien. J'ai pas eu à gérer le SEO sur l'internalisation, donc je mets mon bémol là-dessus. Je pourrais pas en parler, quoi.
Ouais, bah, c'est vrai que maintenant c'est assez simple. On a des systèmes d'internationalisation qui sont assez faciles à utiliser, donc c'est souvent pas trop compliqué à mettre en place. Il y a des librairies qui font ça très bien. Comme tu dis, ouais, c'est vraiment tout ce qui est chaîne de caractères, tout ça à faire en premier. C'est vrai que sur une application qui est vraiment destinée, tu es sûr à 100% qu'elle sortira jamais de la France, bah, tu vas faire en français. Donc là, peut-être pas besoin de s'embêter. Après, si tu as une application qui potentiellement pourrait un jour passer dans une autre langue, bah ouais, d'entrée, tu le fais en multilingue et puis voilà, c'est parti une fois que la première langue est faite.
Avec, voilà. avec, avec quand même garder en tête aussi qu'on aurait tendance à faire de la suroptimisation.
Et, oui.
En fait, on dit, ouais, mais si je fais ça maintenant, demain, ça sera vachement plus facile. Moi, maintenant, j'en reviens un peu, tu vois, de ça, parce que tu te fais souvent baiser. Tu vas dire, en fait, tu vas ouvrir des portes. Tu vas dire, ouais, mais demain, ça sera vachement plus facile, ça sera bien. Sauf que demain, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, ça ne sert à rien de faire de la suroptimisation. Pour moi, en fait, si tu sais que dans les... tu vas utiliser qu'une langue, bah, tu fais tout en une langue et tu informes ton client que le jour où il voudra passer sur la deuxième langue ou gérer les deux langues, il y aura un effort. Par contre, la troisième langue sera beaucoup plus facile à faire parce que sinon, ça peut engendrer plus de taf au départ. Sans pour autant en fait justifier le truc, il faut toujours trouver le juste milieu et c'est difficile.
Ouais, c'est clair. C'est super surtout que tu t'exposes à ne serait-ce que poser la question au client, dire est-ce que ça sera multilangue, et là le mec ah, peut-être un jour mais on n'est pas sûr et tout, et alors là c'est bon en fait, il sait plus, donc
pas bon.
Il faut pas ouvrir pas la boîte de Pandore comme tu dis. Et ouais, je voulais revenir vite fait sur la première question là, sur le fait, la maintenabilité, c'est aussi... c'est qu'au début, en fait, des fois, il faut savoir perdre du temps au début du projet pour le futur, en fait, pour ne pas perdre du temps dans le futur. Et pareil pour tout ce qui est test, en fait. Faut pas, en fait, c'est vachement important quand même de faire un minimum de tests au début, quand tu fais le projet, etc., pour que dans 6 mois, 1 an, quand tu viens modifier des choses, bah, que tu puisses lancer les tests et voir si ça a pété des trucs, en fait, tout simplement. Et quand tu fais ça 1 an après... Tu te remercies en fait d'avoir fait les tests parce que là tu vois que tu as pété un truc et si tu l'avais pas fait, et ben t'aurais jamais pu le voir et tu l'aurais mis en prod avec un truc cassé quoi. Voilà.
Ouais.
Donc, pensez au futur.
Mais ce qui est sûr, c'est que la structure et la rigueur, on va dire un petit peu sur ton organisation de tous tes fichiers, c'est ce qui va conditionner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pour le coup, on voit vraiment ça, on voit une différence entre un junior et quelqu'un qui est expérimenté. Juste comment il a structuré ses fichiers, quelle convention de nommage il a appelé les choses, tu vois. Ça, c'est, tu le vois vraiment.
Tu vois, petite anecdote de quand j'étais... quand j'ai commencé le développement il y a très longtemps et je faisais que du PHP à l'époque, j'avais fait un projet dans une boîte, c'était mon premier job en fait à Lyon, et j'avais fait un projet et tout, et j'avais tout balancé, en fait tous les fichiers étaient à la racine, mais vraiment un bordel complet. Et là le dev qui était plus ancien que moi et tout, il a commencé à regarder le truc, il dit mais c'est quoi ce bordel en fait, et j'avais dû tout re-ranger dans des dossiers tout séparé, il m'avait fait tout re-ranger correctement. Donc je me souviens de ça, tu vois, et puis je pense que ça m'a servi par la suite, mais quoi. Tu vois, junior, la différence avec un junior et un senior.
Et anecdote, pareil, chez un client, j'arrive deuxième jour et en fait, il me montre la code base, machin. C'était une app express avec, je crois qu'il y avait 7000 ou 8000 lignes dans le index.js avec express, quoi. En fait, il avait tout mis comme ça, tout.
8000 lignes ?
Ouais.
Oh, de Dieu.
Et là, tu fais, mais c'est qui a codé cette merde ? Texto. Et en fait, le mec, il me regarde.
Bah, c'est moi ?
C'est moi. Et là en fait t'es super super malaise. Après tu te dégonfles pas, de toute façon tu lui dis ok, de toute façon il y a deux possibilités, c'est soit tu me vires parce que j'ai été cruel et peut-être pas diplomate, par contre le problème va rester entier pour toi. Bon, bah ok, moi j'ai perdu ma mission, tant pis, je m'en remettrai. Soit en fait, on analyse ce qui va pas et on regarde la différence entre là où t'en es aujourd'hui et là où sont tes ambitions sur l'appli, quoi. Et puis on travaille ensemble. Mais bon, après ça, c'est à toi de voir, quoi. Il est sorti.
T'avais parlé avec lui ?
il est sorti, il a pris 2 minutes, il est revenu, il a dit merci. C'est bien, ok, on attaque. Et donc j'ai bossé avec eux, et j'ai bossé quasiment 6 mois et j'ai refait toute l'appli. J'ai fait plus avec eux encore après. Donc c'était un peu cruel, mais ça marche.
C'était la vérité en même temps.
Ouais, exactement, exactement. C'est très, très, très pragmatique. Quoi.
Disons que si tu avais su que c'était lui qui avait codé, tu aurais peut-être été plus gentil.
Ouais, exactement. Tu
n'aurais pas rendu service peut-être.
Exactement. J'aurais été plus diplomate, je pense que ça aurait été sans doute mieux. Question de Forage48. Plusieurs questions, en fait, qui, pour le coup, sont liées à de l'intégration. Donc, c'est vraiment, je reçois la maquette en tant que développeur. Je vais résumer la question, elle est un petit peu longue. C'est en tant que développeur, intégrateur, je reçois la maquette. Quels sont en fait les premiers éléments que je vais regarder? Comment je vais créer mes divisions? Comment je vais utiliser mes balises sémantiques? Quelle est la bonne méthode en fait pour essayer de variabiliser tout de suite les espaces, les couleurs, et que ça reste propre et évolutif quoi. En clair, c'est quelles sont les étapes du process pour que gérer l'intégration complète d'un template.
Eh ben, c'est pas compliqué. Ça dépend déjà si la personne qui a fait la maquette a des notions de web ou pas du tout.
Blâme le designer déjà. Blâme le designer.
Si tu as une maquette d'un designer print, alors là, c'est la cata, parce que du coup, ça, rien n'a été pensé correctement. Après, si tu as un designer plutôt web qui utilise Figma, là, déjà, la personne t'aura découpé des éléments, header, footer, etc. Donc, tu auras des components et tout ça. Donc, c'est assez facile. Bon, en général, c'est assez facile, hein, le header, le footer, c'est les identifier assez rapidement. Main, c'est le contenu principal, voilà. Enfin, au niveau des balises sémantiques, c'est pas très compliqué à découper. Alors, comme je dis, voilà, souvent, si tu as un vrai web designer, tu as découpé les choses correctement déjà, tu as déjà des components et tout ça qui sont vraiment séparés, tout ça. Voilà, tout dépend comment tu reçois la maquette. Effectivement, si c'est une maquette à l'ancienne, tout d'un bloc, et ben, c'est à toi de découper les éléments et de dire alors ça c'est ça, ça voilà, c'est à toi de faire le job. Après, tout ce qui est couleur, etc. C'est variabilisé au maximum. Voilà, CSS variable maintenant, c'est hyper généralisé, donc variabiliser au maximum dans le CSS les couleurs, tout ça, les marges, etc. Et puis ça permet justement d'avoir une meilleure maintenabilité dans le temps et de pouvoir changer juste dans une variable, ça va changer dans tout le code, etc. etc. Ou d'écraser ou de varider, enfin voilà. Toujours, après, on revient toujours au même point, c'est toujours bien structuré.
Après, ça sera propre à toi et ça sera ton choix d'utiliser Tailwind ou pas. Mais l'avantage maintenant, c'est que dans Tailwind, tu vas pouvoir créer un thème et dans ce thème-là, en fait, tu vas écrire tes propres règles et toi, tu auras une sorte de consistance partout. Moi, je considère, mais ça n'engage que moi, je considère que c'est plus facile de garder une consistance avec Tailwind qu'en CSS pur. Mais peut-être que je suis mauvais en CSS, et je peux l'admettre. Tu vois, au moins, tout est normalisé et tout est toujours la même chose. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Par contre, ouais, est-ce que tu vas utiliser du flex, du grid ça va être toi et ta propre compétence, tu vois, sur lequel tu es plus à l'aise. Grid, ça apporte quand même beaucoup beaucoup d'avantages. Par contre, il faut maîtriser déjà tes flexbox. Donc, je sais pas où tu en es en fait dans ton apprentissage, mais maîtrise déjà bien les flexbox. Et une fois que tu maîtrises bien les flexbox, tu peux passer sur grid. Ça sera beaucoup plus facile. Tu auras un petit switch à faire, mais ça sera beaucoup plus facile. Et la qualité en fait de tes maquettes va te faciliter la vie de Maboul. Vraiment.
Ah bah ouais, ça change tout. Hein. Les maquettes, c'est la base. Clairement. Mais après, c'est aussi important d'échanger si c'est possible, hein, en amont avec le designer pour se mettre d'accord sur comment il doit structurer le fichier, etc., les couleurs, etc. C'est un gros travail. Actuellement, je travaille sur une intégration d'un design system. On essaie de faire une sorte de framework, une base de CSS en fait, avec tout le design system, les couleurs, etc., les tailles de titres, etc. Et franchement, c'est pas simple, ne serait-ce que pour trouver les noms des bonnes couleurs, etc., primary ou accent, ou qu'est-ce qu'on met là, machin, tu vois. Il y a des échanges continuels là-dessus, donc ça prend beaucoup de temps et la vérité absolue n'existe pas en fait. Ça dépend des préférences et tout ça.
Allez, question suivante. Lina Boudali M5S. Ouais. Désolé si j'écorche le nom. Alors, pour le coup, quel conseil donneriez-vous à un développeur, un jeune développeur récemment diplômé d'une formation pour décrocher un emploi ? Les formations en ligne, bien qu'utiles, ne fournissent pas toujours les outils nécessaires pour être pleinement opérationnel et dit employable. On se concentre principalement sur les bases, mais la véritable progression repose sur un apprentissage continu, souvent en autodidacte. Je pense qu'on ne peut que abonder dans ce constat-là.
Ah bah ouais.
Quels seraient vos conseils pour intégrer un secteur aussi compétitif que celui du développement, particulièrement dans le contexte actuel où la concurrence est forte ? Point d'interrogation. Que recommandez-vous en termes de routine, méthodologie, d'approche quotidien pour maximiser ses chances de réussite ?
Voilà, vaste question.
Ouais.
C'est pas simple parce qu'en fait, bah, je sais pas, toi tu. En plus, toi, t'es. Alors, je sais pas si tout le monde le sait, mais toi, tu es formateur aussi dans une école, donc ouais. tu participes à la formation de pas mal de futurs oui. développeurs. Moi, personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, on forme trop de développeurs. Voilà, c'est mon avis. Je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve qu'on forme trop de développeurs et on se rend compte. Enfin, si tu suis un petit peu les réseaux sociaux, tout ça, il y a beaucoup de juniors aujourd'hui qui ont du mal à trouver un emploi. Alors, je pense qu'on leur a vendu du rêve. C'est malheureux, hein, mais en
totalement.
Même temps, c'est la formation, les écoles de formation de web, tout ça, c'est leur business. C'est vendre des formations et voilà, c'est ce qu'ils vendent en fait. Donc, il faut qu'ils fassent de l'argent, donc ils vendent du rêve. Malheureusement, aujourd'hui, ouais, il y a peut-être besoin de moins de développeurs. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus complexe voilà, pour quelqu'un qui est junior et il cherche... apparemment, de ce qui se dit, plus de seniors, de gens qui, voilà, qui sont de suite prêts à bosser, tout ça. Alors, c'est dommage parce que souvent, d'embaucher des juniors, c'est bien aussi parce que tu vas les former, tu vas les faire grandir et après, voilà, s'ils sont bien, si tu les payes bien, que tu t'occupes bien d'eux, ils vont rester peut-être ou partir. Mais bon, dans tous les cas, voilà, tu les formes. C'est toujours intéressant de former, comme on l'a dit déjà avant. Donc, c'était quoi la question déjà ? J'ai oublié.
Après, quelle serait... Alors... Pour le coup, moi, je peux mettre ma petite pierre à l'édifice. Ce qui est sûr, c'est que rester employable quand tu sors de formation, souvent des formations continues ou en un an ou en deux ans, toutes les formations dites reconversion, tu vois, malheureusement, en fait, pour moi, tout le monde ne peut pas être développeur. Et j'ai été formateur sur des écoles comme ça. Il y a des erreurs de casting au départ qui sont monumentales. Mais pour des raisons de financement, d'organisation, ouais, mais on ne peut pas faire la formation si on n'est pas 12. Donc, on va prendre les 12, même si le 12, le 11 ou le 12e, il est un peu limite, on va le prendre quand même. Et pendant un an, parfois 18 mois, on va lui bourrer le mou en disant « Non, mais il faut travailler. » Mais tout le monde n'est pas en capacité de devenir développeur. Ça, c'est un fait déjà. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Après, deuxième chose aussi, sur ces formations, on brosse hyper large. Donc, on voit plein de choses. Derrière, en fait, tu sais faire beaucoup de choses, mais tu ne sais pas faire tout bien nickel, quoi. Et donc, moi, mon approche, en fait, elle serait de se spécialiser. Même si j'ai dit complètement l'inverse avant, je pense aujourd'hui qu'on a plus besoin de spécialistes. Et donc, tu choisis ton arme, tu vois. Clairement, quand j'entends un mec qui sort de formation, qui a moins de deux ans d'expérience, il y a deux ans, il ne connaissait même pas le code, et il fait du PHP, du Python, et du JS, du React, et du Next et du SQL, je fais putain, soit t'es une putain de machine, ce qui est possible, soit en fait tu n'as fait que caresser les choses, quoi. Et la plupart du temps, c'est ça. Donc en fait, l'apprentissage, ça prend du temps. Choisis ton arme, évite de faire des switches dans tous les sens en disant voilà, je vais faire du PHP, après je vais faire du JS, deux mois après je vais faire du Python, tout. Non, tu choisis ta techno, tu choisis ton langage, tu fais ça pendant longtemps et tu bouffes des projets et t'es confronté à la réalité pour vraiment monter en compétences. Sur un sujet, et là en fait tu vas gagner en employabilité. Autre point aussi, tendance actuelle. Alors là, je vais pas me faire des amis aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'assume.
On n'est pas là pour ça.
Non, on n'est pas là pour ça. Tout ce qui est formation ou bouquin pour passer les tests d'entretien. Voilà. On te forme à te passer des tests d'entretien. Cela, ça marche sous couvert que tu as compris de quoi tu parles. Parce qu'en fait, si tu ne fais que régurgiter ce que la personne a envie d'entendre, oui, potentiellement, tu vas potentiellement passer le test. Mais au final, tu vas te faire bouler plus tard. Parce qu'en fait, on va te rendre compte, à un moment donné, ton employeur va se rendre compte que en fait, tu manques cruellement de fondamentaux. Donc, être capable de passer le test d'entretien de Google parce que tu as appris par cœur la réponse et tu sais que c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça qu'il faut dire, et voilà, parfait, parfait. Mais l'as-tu vraiment compris ? Et c'est là, en fait, toute la subtilité. C'est que s'il y a des tests techniques, le but, ce n'est pas de te mettre en échec volontaire. C'est juste de garantir un socle minime technique, minimum. Après, est-ce que le test est bien fait ? Ça, c'est, je veux dire, ça, c'est pas ton problème, quoi. Est-ce que eux, ils ont fait des tests techniques pertinents ? Peut-être pas, mais... Tu sais pas. Donc, te former spécialement pour passer ces tests techniques, pour moi, c'est une hérésie si tu n'as pas compris le sujet principal. Donc, bosse ton sujet principal et tu n'auras pas besoin de te former à passer des tests, quoi, tu vois, à passer les tests techniques. Et autre point sur les tests techniques, et j'en finirai là, je pense aujourd'hui que les tests techniques sont importants, soit... Mais tout le côté soft skills, en fait, prend d'autant plus sa valeur.
Ah, ouais.
Clairement, un mec qui a des compétences de maboule, c'est un tueur en SQL, tout, mais impossible de lui parler. Impossible de travailler en équipe, il répond jamais, il a un comportement très, très, très bizarre, et, il n'a pas envie de monter en compétences, tout. Soit il est méga high skill et j'ai vraiment besoin de ses compétences. Dans ce cas-là, oui. Par contre, quelqu'un qui est un peu moins compétent, mais qui va s'intégrer dans l'équipe, avec qui on peut discuter, on peut échanger, qui a envie d'apprendre, qui est dans un bon mood, tout, je pense que ça peut vraiment jouer en la faveur. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les hard skills, il y a les soft skills aussi qui jouent, indéniablement. Et ça fait partie intégrante. Et pour moi, je pense qu'on rentre dans l'ère du temps où les soft skills prennent toute leur valeur, quoi. Donc,
Complètement. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre plusieurs candidats. Comment l'entretien s'est passé, comment la personne a réagi, tout ça, s'il est ouvert. Et puis après, derrière, travailler en équipe, c'est hyper important quand tu es intégré dans une équipe. Si dès que quelqu'un lit ta PR et te dit « ouais, ça, ce code, ça va pas », que tu le prends mal, tu commences à t'énerver et tout ça, ça va pas durer longtemps, quoi. Donc, c'est capacité d'apprendre, d'accepter qu'on n'est pas parfait, que notre code, il y a des erreurs. Donc, accepter les critiques des autres, accepter et puis évoluer. Ouais. Comme tu dis, aujourd'hui, ouais, c'est clair qu'on est dans une ère où les soft skills sont plus importants que... Enfin, personnellement, moi, j'ai déjà fait des recrutements dans des boîtes d'avant et j'ai toujours recruté plus sur les soft skills que sur les compétences réelles. Parce que je sais que la personne, si elle a envie d'apprendre, elle va monter en compétences et ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais au moins, tu sais que passe bien et que tous les jours...
Et au quotidien, c'est tellement plus facile à gérer. Tellement plus facile, plus facile à gérer.
Une des boîtes où j'ai bossé, le boss me disait toujours pour savoir en fait si tu peux travailler avec quelqu'un ou quelque chose, ou tu embaucher, il disait, tu t'imagines si, est-ce que tu pourrais faire un long trajet en voiture avec cette personne en fait. Tu vas discuter. Clairement. Et là déjà, ça répond pas mal à la question.
Ouais. Donc, mais question très difficile et légitime et on entend et on voit et on lit de plus en plus de personnes qui sont dans ta situation et c'est compliqué. Mon conseil assez court, mais c'est toujours difficile de donner conseil, tu vois, parce que je suis pas dans ta situation avec ton bagage, donc c'est c'est toujours difficile. Moi, j'aurais plutôt tendance à essayer de me focus sur une techno, un skills, et je mets all-in dessus. Mais c'est
Oui.
aussi ma personnalité qui parle, tu vois. Peut-être que toi, t'es pas en raccord avec ça. Et donc, très, très, très difficile de donner des conseils, en tout cas.
Ouais, bah en fait, non, mais t'as raison. Choisir une techno et se focus là-dessus et être bon. Alors, une techno qui est demandée, parce que
Ouais, bien sûr, évidemment.
va pas faire du COBOL. Quoique, ça
Après,
peut être pas mal pour
c'est un choix.
les
C'est aussi
trucs
un choix,
immobiliers.
potentiellement, hein, mais ouais,
Ouais.
c'est
Non, non, ouais, une techno,
autre
surtout
sujet.
quand tu es junior, donc essaie de te spécialiser dans une techno et puis de la maîtriser, et puis voilà, une techno qui est demandée, et là peut-être tu trouveras déjà un premier job. Ce qui est important aussi, ouais, parce que je reviens sur le truc en apprentissage continu, oui, notre métier développeur, c'est un apprentissage continu, c'est-à-dire que, enfin, j'imagine que toi c'est pareil, hein, mais
Ah oui,
ce que je
clairement.
faisais il y a 15 ans, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, et j'apprends tout le temps en fait. Personnellement, et là en ce moment je fais du Python pour faire de l'IA, etc. Là, voilà, j'apprends tout le temps, on apprend tout le temps, et c'est aussi ce qui est cool dans ce métier, c'est qu'on évolue tout le temps, on apprend plein de choses et tout, et ça c'est génial. Donc on reste pas figé sur une seule chose, une seule techno, et ça c'est important. Et pour le premier job, bah, je dirais peut-être ce qu'on vous a vendu à la base dans les écoles là, ou les formations, je sais pas quoi, vous allez gagner. Je ne sais pas combien par mois, 3 000, 5 000 euros. Bah, peut-être revenez un petit peu à la baisse. Visez peut-être un job dans une agence plus simple, peut-être moins bien payée, mais ça vous fera votre première expérience. Et après, vous pourrez viser un petit peu plus haut. Donc, alors après, c'est facile. Hein, il faut déjà trouver le premier job, mais ce n'est pas évident souvent. Mais bah, peut-être viser un petit peu moins haut et se contenter d'un premier job. C'est ce que j'ai fait hein, personnellement. J'ai accepté quand j'ai fait ma reconversion à l'époque, et c'était pas comme aujourd'hui, de gagner moins d'argent, mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et puis voilà. Après, derrière, j'ai pu avoir d'autres jobs mieux payés, etc.
Yes. Allez, question de Nico Mildev. J'adore. Existe-t-il un décalage entre les outils dont vous parlez et ce qui est réellement utilisé en entreprise? En clair, Patrick, est-ce que tu n'es pas en train de nous vendre de la techno mytho, machin, mais que toi-même, tu n'utilises pas? Et Nico, on ne dit pas que tu es mytho. Hein. Ne dis
Tu
pas
connais Nico?
que tu nous prends pour des mythos. On n'est pas des mythos. Non,
Non.
pour le coup, moi, je peux te répondre clairement. Il y a plein de sujets sur l'actualité où on est curieux, on va regarder la techno. Par contre, on ne va pas l'utiliser. Et tu vois, un exemple typique, j'ai appris avec GridSum. Je pense que toi, tu as appris avec Gatsby, tu vois, où on a fait des sites en prod pour des clients. Et aujourd'hui, la techno, elle est morte. C'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien qui a évolué là-dessus. Donc, il y a aussi ce côté-là où est-ce que la techno est suffisamment mature pour pouvoir la déployer chez un client? À l'inverse, dans les actualités, et là, on va parler de toute l'effervescence qu'il y a. Et on est les premiers à dire encore un framework JS qui sort. Est-ce qu'on va tous les utiliser en prod chez les clients? Non, clairement pas. Parce qu'on va regarder la maturité, l'évolution, le taux d'implémentation et la stabilité. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est la stabilité, quoi, de la techno. Est-ce qu'elle est mature pour être en prod? Vraiment.
Ouais, bah, de toute façon, c'est clair, c'est ça. Hein. C'est soit toi, Alors, soit le client s'en fout et te fait confiance. Donc, c'est à toi de choisir la techno. Tu vas généralement choisir un truc qui est fiable. Après, souvent, des fois, les clients peuvent poser la question. Est-ce que c'est fiable, la techno qu'on parle? D'ailleurs, Next.js, là, sur un projet qu'on a fait qui dure 3-4 ans, là, bah, au début, le responsable du tout ce qui était numérique, il m'a dit, est-ce que c'est fiable, Next? Est-ce que dans 4 ans, ça sera encore là, etc. Bah, j'ai dit, oui, pas de problème. Et aujourd'hui, ça marche encore, le projet tourne encore, il est toujours maintenu et tout ça. Donc oui, des technos fiables. Mais c'est vrai qu'il y a tellement, dans les news, on a tendance à parler de nouveautés et tout ça. Bah, voilà, faut en parler. Mais il y a des choses, voilà, tant que c'est pas mature, faut pas les utiliser en prod parce que oui, si à chaque montée de version, tu dois refaire la moitié du code, c'est pas du tout rentable ni pour toi ni pour le client. Ça, c'est clair.
Par contre,
Après,
tu vois
oh,
ce qui
pardon, vas-y.
pardon, excuse-moi, ce qui est par contre intéressant, c'est sur ces nouvelles techno, en fait, c'est de toi faire un petit side project avec, en fait, pour tester. Tu vois, tu fais un petit POC, tu fais un truc à la con, juste pour tester, pour monter en compétence, toi. Ça te permet aussi de voir est-ce que tu arrives à te projeter avec tes clients là-dessus, à faire des transitions potentielles ou pas. Mais ouais, c'est quand même pas mal de pouvoir tester avant de jouer en prod sur une techno, quoi. Moi, je ne vais pas sortir une techno du chapeau avec un client. S'il y a un enjeu commercial trop fort, je ne vais pas sortir une techno ésotérique. Vraiment, clairement.
Non, mais après, trop dangereux. Après, c'est bien de tester les technos, même si ce n'est pas pour mettre en prod. Là, j'ai testé la version 2 de... comment ça s'appelle, de e-commerce
Medusa.
Medusa, ouais. Je me suis amusé avec la version 2 de Medusa il y a deux semaines ou il y a une semaine, je ne sais plus, pour voir comment ça fonctionne, tout ça. J'ai fait le tuto, j'ai suivi le tuto, tout ça. C'est toujours intéressant de tester pour voir éventuellement si c'est mature, si ça peut convenir à un projet, etc. Donc, c'est bien aussi de se tenir un peu au courant et de tester sur des trucs... des petits tutos, tout ça. Je voulais dire un truc. Ouais, peut-être que Nico, en fait, il est peut-être... Alors, tu sais, souvent, il y a une petite guéguerre, entre guillemets, gentille, hein, mais entre les développeurs PHP, le JS, tout ça. Et souvent, les développeurs PHP te disent « Non, mais vous nous faites chier avec votre framework JS. Nous, on fait du PHP, c'est vachement stable et tout, machin. » Ou du Ruby, tu vois. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être Nico fait du PHP et se dit « Mais ils nous emmerdent avec leur framework JS. »
Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, c'est la guéguerre permanente. Ça sera la guéguerre permanente. De toute façon, aujourd'hui, tu vois, comme dans tout milieu, si tu veux, on est bercé par l'idéologie. Et l'idéologie a plus de valeur que le pragmatisme, à mon grand désarroi, mais c'est comme ça.
non, mais après, mais moi, je fais du PHP, du JS, et donc, PHP, c'est très valable. Hein, Laravel, Symfony, c'est bien, c'est très bien. Et tout ce qui est JS aujourd'hui, c'est très mature aussi. Next, Nuxt, etc. React, Vue, tout ça, c'est mature. Donc, tout peut être utilisé en prod et tout ça. Donc,
pas de guerre à ce niveau-là. Ça recoupe un peu la question suivante de Cyclopeur 000. Comment vous faites pour évoluer en tant que développeur? Quelles sont les stratégies pour faire votre veille et améliorer votre compétence théorique, pratique, algorithmique? Comment on organise notre veille? YouTube, Twitter, blog, doc, et différencier les sources et comment on s'organise dans notre emploi du temps pour pas être submergé par la masse d'informations, parce que ça évolue super vite. Ça recoupe un peu là peut-être comment toi tu fais ta veille. C'est quoi tes sources?
Beaucoup sur Twitter. Blue Sky aussi maintenant, j'ai envie de dire, je suis en train de migrer un petit peu, mais je resterai quand même sur Twitter pendant un moment parce que c'est pas encore la migration totale. YouTube, alors là YouTube c'est chaud quoi, parce que t'as beaucoup de bullshit, de vidéos où les mecs ils vont faire juste un Hello World et en fait finalement ils maîtrisent même pas le truc. Donc
j'en peux plus des vidéos Hello World, j'en peux plus.
Non mais voilà, c'est souvent difficile de trouver des vraies vidéos intéressantes techniques sur YouTube, mais ça se trouve. Hein.
Oui, il y en a.
Mais beaucoup de Twitter qui te renvoient forcément vers les documentations officielles souvent parce que c'est des comptes officiels comme React, tout ça. Puis après, tu vois un lien, tu cliques, tu lis un peu la doc, tout ça. C'est beaucoup des choses comme ça, en fait.
Moi, je trouve que c'est vachement par phase, en fait. Tu vois, là, pour le coup, transparence, je suis dans ma phase SQL. Tu vois, je suis en train de
Oui, alors, il faut savoir qu'il a des phases, Alex.
Ouais, exactement. Moi, j'ai ma phase...
Mais tout ce qui est DB, ça fait un moment que ça dure.
Ouais, en fait, j'ai eu ma phase Redis. Et pour le coup, je suis vraiment fan de Redis. Je pense avoir bien poussé, même si on peut toujours pousser Redis encore plus. On est complètement d'accord. Mais je suis dans ma phase SQL. Et en fait, tu ponces le sujet, tu reviens, tu lis la doc, tu vas lire des vidéos techniques. Tu vas regarder des vidéos techniques hyper poussé sur, tu vois, là pour le coup, comment tu vas faire des triggers, comment tu vas déclencher des triggers qui vont lancer des fonctions, qui vont appeler du code. Tu peux aller super loin. Et puis après, j'aurai une autre phase où je vais passer à autre chose. Donc, ça se fait un peu naturellement. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu apprends, en fait, ça te sert pour ton prochain projet, quoi. Parce que ça te sert toujours, toujours, toujours. Donc, aujourd'hui, moi, je viens plutôt de l'univers front. Donc, je bascule plutôt côté serveur, algo et DB. Et là, pour l'instant, je suis dans ma phase DB. Même si tu vois, je viens de prendre une mission où je vais déployer tout l'archi pour mon client.
Et DevOps maintenant.
Et donc je dois, ouais, mais je fais mes choix aussi stratégiques en disant que ok, moi je peux pas gérer Kubernetes et AWS et tout le bordel et tout ça. Donc je fais des choix stratégiques aussi pour pouvoir gérer le truc. Donc comme on disait tout à l'heure, tu vois, le fait d'être indépendant, on a plus de souplesse, on est moins tenu par cette rentabilité horaire. En fait, si on dépasse, bah on dépasse. À toi de bien vendre quand tu es indep, tu vois, de bien le vendre. Comme ça, bah, tu n'as pas de pression financière. Et moi, je trouve ça super cool que mon client il paye ma montée en compétences, quoi, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Après, comment j'organise mon emploi du temps, je sais pas, ouais, toi, t'as un secret magique pour pas te laisser submerger.
Demande à ma femme, tu verras.
Ouais, c'est ça.
Non, j'ai pas d'organisation. Ça dépend aussi des projets, si je suis super occupé ou pas. Évidemment, si j'ai des choses en cours, je passe la priorité sur les projets clients. Après, si actuellement là, je suis plus cool depuis une semaine, donc je travaille sur. Moi, je suis dans ma phase IA, donc voilà, je suis en train d'apprendre comment ça fonctionne exactement, etc. Je me fais Hugging Face, tout ça, du Python, alors que je suis complètement un débutant en Python. Mais bon, c'est pas un langage qui est compliqué, mais ça s'apprend. Voilà. Mais je sais qu'à chaque fois, ça sert pour le reste, parce que je me souviens quand j'étais plus jeune développeur, je faisais beaucoup de PHP, tout ça. J'avais, à un moment donné, fait de l'ActionScript 3, qui était pour Flash. Et ActionScript 3 m'a appris la programmation objet. Donc, ça m'a servi après pour le PHP, quand je faisais de l'objet, tout ça. Donc, voilà, quand tu apprends des choses, ça te sert aussi à d'autres langages, etc. Puisqu'en fait, finalement, les langages sont à peu près tous pareils. Donc...
Transfert.
Ouais.
Voilà. Yes. Corentin, qui est venu avec beaucoup, beaucoup de questions, qu'on va peut-être regrouper avec des questions suivantes. Grosse tendance, c'est quoi la grosse tendance pour vous, pour nous en ce moment? Ça serait quoi la tendance actuelle?
Tendance sur quoi? Sur les
sur le JS, tu vois, c'est quoi la tendance du moment, le projet du moment, tu vois, le truc. Moi, je peux répondre déjà sur le fait que on essaye, et je pense que tu partages mon avis, c'est qu'on essaye de voir la différence entre la hype, le bruit et une véritable tendance, quoi, tu vois, une tasse de quelque chose du bruit du signal, tu vois, le signal, il y a quelque chose, le bruit, ça brasse, il n'y a pas grand chose. Est-ce que l'IA est juste du bruit? Non, je pense qu'il y a vraiment une tendance. L'assistant pour les devs, c'est une vraie tendance. L'IA va rentrer dans tous nos logiciels. Voilà, ça, c'est quasiment sûr. Et aujourd'hui, ma mère connaît ChatGPT. Donc, c'est un signe de dire que, OK, y a un taux de pénétration et de maturité de la globalité des personnes pour, OK, elle ne sait pas coder, elle ne sait pas utiliser un prompt, elle sait pas, mais elle sait ce que c'est. Voilà. Et donc, il y a une acceptation du mass market qui va faire que. Donc, ça, c'est une vraie tendance. Est-ce que nous, on peut en profiter en tant que dev? Oui. Indéniablement, et je pense que on va faire un épisode là-dessus. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, qu'on va faire un épisode un épisode dev IA et comment nous développeurs on peut intégrer l'IA dans nos logiciels. C'est quoi question plus spécifique, c'est quoi la suite de Double Slash, c'est quoi les projets dans les tuyaux de Double Slash?
C'est quoi la suite? Voilà, c'est quoi la suite? Bon, on aimerait avoir plus de temps déjà, mais bon, le problème, c'est que voilà.
Ouais.
Sinon, là, on aimerait faire plus de workshops, on aimerait faire des formations, etc., évidemment. Mais ça, ça fait un petit moment, donc il faudrait qu'on arrive à libérer plus de temps et, pour faire ces choses-là.
Mais, et déjà, un moteur de recherche, tu vois, comme
ouais,
on l'a dit,
pas mal,
sur 2025, un moteur de recherche sur le site, ça pourrait être pas mal. On va garder la question pour la stack parce qu'il y a une autre question qui est un petit peu sous-jacente, ouais. Suivante derrière, donc on pourrait y revenir. My own pufferfish, comment vous arrivez à gérer la pression quand vous avez des gros projets qui prennent du retard et qui s'accumulent?
Le sport.
Et comment vous lancez dans un projet avant de vous apercevoir qu'il vous dépasse, si cela arrive?
La pression, moi je la gère mal. Comme je dis, le sport, ça me permet d'évacuer parce que si je fais pas. Enfin, c'est souvent les clients qui te mettent la pression. Déjà, la première chose, je me dis, attends, calme-toi, on n'est pas médecin, on ne sauve pas des vies. Donc, c'est bon, c'est des applications web, c'est des sites web, c'est bon, ça ne va pas changer la face du monde si on prend un peu de retard. Déjà, première chose, il faut relativiser en fait par rapport à ce qu'on fait. Après, ouais, évacuer, si vraiment il y a trop de pression, évacuer avec le sport. Et prendre du recul aussi. Parce que des fois, on se speed et on commence à faire n'importe quoi, à s'énerver, tout ça. Donc, essayer de prendre du recul. Et puis, alors la question, si ça dépasse, ça peut arriver hein, que le projet, putain, finalement, c'était plus compliqué que ce que j'imaginais, tout ça. Moi, ma technique, c'est de prendre step by step, c'est-à-dire que j'y vais étape par étape. C'est-à-dire, si le truc est vraiment ambitieux, tout ça, bah, étape par étape, je commence par faire ci, après, je rajoute. Et petit à petit, t'avances, en fait, en faisant des petites choses par-ci, par-là. Puis à la fin, tu arrives à finir en fait. Mais il faut vraiment voilà, se concentrer sur l'étape que tu es en train de faire et pas penser au projet global et puis essayer d'avancer petit à petit par brique. Quoi. Voilà.
Pour le coup, j'adhère complètement. J'arrive sur la fin d'un énorme projet que je suis depuis quasiment un an. Alors pour le coup, moi, ça ne m'a pas mis la pression.
C'est toi qui as mis la pression au client.
Exactement, pour le coup. Et par contre, sur la gestion de retard, je pense que le plus important, c'est de communiquer. Et en fait, plus tu communiques en amont, plus tu es transparent en disant « on va avoir du retard », ou aussi si le client a du retard, parce que ça arrive souvent aussi, où en fait, eux, ils nous demandent une extrême rapidité, alors qu'eux ne se sont pas, n'ont pas respecté les délais. Donc, en clair, de communiquer en amont sur le 10 du mois, vous nous avez envoyé les données. Le 20, vous allez avoir votre première version. Si le 12, ils ne les ont pas envoyés, bah, tu communiques tout de suite en disant vous avez croqué toute votre marge, donc nous, on ne peut plus assurer le délai. Et en fait, plus tu viens communiquer en amont, plus c'est facile. Pareil, si ça n'avait pas été prévu une date, et toi, tu vois que tu ne vas pas sortir, tu appelles tout de suite ton client ou le chef de projet l'appelle, mais faire l'autruche, et rien, c'est encore pire, en fait. Donc, plus tu viens communiquer en amont, plus c'est facile. Vraiment. Pareil sur des merdes, des complications, tu informes tout de suite ton client. Et en fait, plus tu informes tôt sur des trucs parfois insignifiants, plus en fait, il est décontracté. Parce que la majorité des clients ne comprennent pas notre métier. C'est pour eux, c'est complètement abstrait, c'est fumeux, tout. Et tu lui dis, ouais, mais en fait, j'ai mon serveur, j'ai galéré pour le déployer, tout. Lui, il comprend pas, il s'en fout, il entend pas. Et lui, il entend gna 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 gna. Et donc, en fait, plus tu lui expliques les choses et dans son vocabulaire à lui, en disant, voilà, j'ai rencontré des problèmes. Je pensais être capable de faire ça en 10 jours. Je constate que bah, au bout de 10 jours, c'est toujours pas fini. Il me faut tant de jours de plus. Est-ce que tu as géré à la journée, au forfait? Voilà. Après, il y a toute cette notion commerciale. Par contre, ce qui est sûr, c'est que commercialement, si tu attends le dernier moment pour dire qu'il y a du retard, c'est encore pire parce que tu as perdu toute crédibilité. Et donc, plus tu as anticipé ça, plus tu passes pour un pro, en tout cas pour moi, et plus ça passe mieux avec ton client.
Ouais.
Donc, voilà.
Ouais, tout à fait. Non. T'as raison. La communication, c'est hyper important en fait. J'ai T'as bien fait de me rappeler parce que c'est vrai que c'est communiquer au maximum avec le client parce qu'en fait, il faut éviter toute rupture de communication parce qu'à un moment donné, si jamais tu communiques pas bien, etc., que tu arrives, ah, j'ai du retard, machin, et là, tu peux risquer une rupture de communication avec le client et c'est là où ça s'envenime en fait les choses. Et donc, c'est hyper important de toujours communiquer au maximum, quoi. Et je voulais revenir vite fait. Dans les agences, souvent, si vous le faites pas, si vous, ceux qui écoutent là, les auditeurs, auditrices, vous êtes dans une agence et vous ne faites pas ça, essayez de le faire. C'est que tous les matins, généralement, il y a un daily. Voilà, on arrive à 9h, il y a le daily à 9h15. Tout le monde se connecte ou se voit dans une salle de réunion et dit ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il a fait hier et dit éventuellement sur quoi il est coincé, etc., pour que d'autres devs viennent l'aider pour une feature qu'il n'arrive pas à faire, etc. Et ça, c'est hyper important parce que ça aide à se décoincer, ça communique, etc. Donc, si vous êtes dans une agence aujourd'hui ou dans une boîte où vous ne faites pas de daily, bah, essayez de commencer à en faire parce que c'est important de communiquer sur les endroits où on est coincé dans le code, etc.
Ou alors, s'il n'y a pas un daily, d'être aussi en capacité de verbaliser son problème.
Ouais, de dire j'ai besoin d'aide.
De dire là, help, help, et n'attendez pas. Et pour le coup, toi, je ne sais pas si ça t'arrive parfois, mais moi, je bosse beaucoup seul. Et en fait, parfois, quand tu es bloqué sur un problème, c'est très difficile, en fait, tu vois, parce que je peux pas, j'ai pas un lead dev qui dit hey, « Eh, mec, tu vois, ça serait cool. » Mais là, c'est pas le cas. Et donc, savoir s'entourer, savoir discuter avec d'autres personnes, si tu es freelance, par exemple, de discuter avec d'autres freelances, que ça soit technique, que ça soit commercial, que ça soit marketing, si toi tu te vends tout seul, bah tu dois couvrir tout le spectre du métier et donc bah discuter avec des homologues ou des compères, ça va vachement t'aider si t'es seul et si t'es pas en équipe. Si t'es en équipe, et bah joue l'équipe évidemment, clairement.
Être sur des Slack ou Discord pour aller discuter avec d'autres devs, tout ça sur des problèmes, etc. Trouver si quelqu'un a déjà eu le problème. Voilà.
Yes. Rust, Antaru, qu'est-ce que vous pensez de Rust ? Est-ce que ça va continuer à prendre de plus en plus de place dans les outils au point qu'il sera utilisé en back-end ? Avez-vous déjà essayé Yev ? Je ne sais pas comme Yev ou Yev, je ne sais pas comment. Je sais pas comment ça se prononce. Donc tu comprendras que personnellement, non, je n'ai pas joué avec Rust et je me suis pas mis à Rust, même si. Force est de constater que beaucoup de choses sont réécrites avec Rust. Par contre, de là à ce que Rust devienne un outil, et en tout cas le langage principal en back-end, je pense qu'il y a encore, il y a encore du chemin à faire. Rust est ultra rapide pour tout ce qui est outils, tout ça, indispensable, tout ce qui est librairie, on va gagner en efficience. Là-dessus, il n'y a pas photo. Par contre, que ça devienne le langage principal du back-end, là, je suis un petit peu plus sceptique parce que, mine de rien, la courbe d'apprentissage en Rust, elle n'est pas donnée. Alors, pour avoir lu un petit peu... tu vois quand même que tu peux pas t'improviser dev Rust comme ça du jour au lendemain. Tu as vraiment un effort à fournir, à toute une montée en compétences. Et ça, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Donc, oui, il y aura de plus en plus d'outils qui vont être faits en Rust. Mais de là à devenir le standard pour le back-end, j'y crois pas, personnellement.
Moi je pense que tous les outils vont passer en Rust, c'est sûr et certain. En tout cas les outils de dev, JS, tout ça, c'est sûr, ils passent sur Rust. Dans les prochaines années, il n'y aura plus que du Rust, ça c'est évident. Après en back-end, je pense que c'est utilisé par des boîtes qui ont des problématiques de montée en charge, tout ça. Donc, ça c'est sûr, il me semble que Doctolib l'utilise, mais je ne vais pas dire de conneries, ou c'est peut-être du goût, mais je sais qu'ils utilisent des choses comme ça pour les montées en charge. Ensuite, le framework, j'ai regardé là, parce que ça m'intéressait, et ça m'a dessus, j'ai dit, ah, un framework en Rust, et j'ai regardé, ça a l'air pas mal en fait, j'ai envie de tester un petit peu, je vais m'amuser un petit peu avec, ça a l'air plutôt bien fait et tout, c'est un framework voilà, avec des templates et tout, pour faire du, voilà, un framework complet, pour faire du back-end, des rendes, des vues et tout ça, donc ça a l'air vraiment intéressant, je savais pas qu'il y avait des frameworks comme ça en Rust, donc ouais, de là, est-ce que ça devienne le langage majoritaire, ça m'étonne. Après, pourquoi pas ? C'est un super langage, en tout cas. Il faut juste s'y mettre. Je ne sais pas si c'est vraiment beaucoup enseigné encore dans les formations, tout ça. Il ne me semble pas, mais...
Non, je ne pense pas. Je pense pas. Ouais.
Mais en tout cas, moi, j'ai toujours... À chaque fois, je suis plutôt motivé pour apprendre à faire un peu de Rust, parce que je trouve ça
okay.
assez, Ouais, non, le langage est assez concis, tout ça, il est bien pensé. Puis, tu sais, c'est un peu comme tout ce qui est Nux, tout ça, tu as des conventions, tu as des outils officiels, voilà, voilà, gestion de librairie, tout ça, voilà, c'est standardisé. Donc, en fait, voilà, tu es assez guidé quand même. Donc, mis à part apprendre la syntaxe, tout ça, voilà, qui est différente de ce qu'on connaît, ouais, c'est vraiment un langage intéressant, je pense.
Ok. Scar 8100, est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous formez à Next, à Nuxt, à Astro? Quelle est la formation top à suivre?
Wow. Alors, non, on ne forme pas spécialement. Enfin, moi, je ne forme pas spécialement. On pourrait, hein, à tout ce qui est astro, tout ça. Mais bon, il y a déjà pas mal de ressources, je pense, sur le net.
Ah, mais vous formez, en fait.
Ouais, formé.
Ouais, en fait, j'ai mal lu la question. En fait,
Est-ce
la
que vous
question,
vous
c'est
formez, peut-être?
est-ce qu'on se forme, nous, en fait, ou est-ce que vous formez? Non. Alors, non, on ne forme pas.
Pas encore, on
Exact.
va dire.
J'aime ça, Patrick. Parfait. Non, pas encore. Après, pour être transparent, on en a discuté avec Patrick. Et c'est vrai qu'on aimerait faire plus de formations, voilà, plus de workshops, des formations complètes sur. Personnellement, sur Nuxt, ça c'est sûr. Sur Astro, pourquoi pas, top, ce framework pour faire des sites internet. Next, c'est sûr que, enfin, je suis persuadé qu'il y aurait des choses à faire. Malheureusement, comme je l'ai dit, là, je viens de passer un an sur un énorme projet. J'arrive à la fin du projet. Donc, pour moi, de 2025, justement, je voudrais basculer sur un autre format, moins travailler pour mes clients et plus travailler sur des sujets comme ça. Donc, personnellement, oui, j'aimerais faire des formations à Nuxt, Vue et GraphQL, des choses que je maîtrise,
Ouais.
que j'utilise au quotidien, ouais, clairement.
Mais après, c'est. Ouais, pareil, mais après, c'est un gros taf, hein. Faire des formations, tout ça, des vidéos tournées,
Et ouais,
c'est énormément de travail. Donc, potentiellement, oui, si un jour on en fait, bah, ça sera éventuellement payant. Une partie, en tout cas. Parce que, ouais, c'est vraiment beaucoup de travail. Ça prend énormément de temps de créer une formation, de tourner les vidéos, etc. Donc.
mais de toute façon, vous serez au courant.
Ouais,
Vous
c'est
inquiétez
sûr.
pas, vous serez largement au courant. Donc, de te donner une date, clairement, on est incapable. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve un meilleur équilibre pour améliorer tout ça. Même si on a une envie réciproque, aussi bien Patrick que moi, de tendre vers ça, clairement. Clairement. Johan, c'est quoi votre techno préféré?
Vas-y, toi, on sait là.
Bah, moi c'est clairement, moi j'ai choisi mon camp. Je suis un mec du front, je viens du front. Je fais du Vue et je fais du Nuxt. Je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, si tu as des compétences en front et tu sais gérer des stores et des management, systèmes intermédiaires et tout ça, quand tu vas faire ton bac en JS, tu vas t'en sortir. Par contre, moi, j'ai fait le choix de jouer full JS, même si pendant longtemps j'étais un gros adepte de Ruby on Rails, et donc je pissais rouge. J'étais Ruby on Rails. J'ai succombé aux louanges du JS. Aujourd'hui, je fais que du JS. Ma stack est full JS. Et comme je dis tout le temps, front is the new back. Parce que bah tu ton JS maintenant il va s'exécuter sur le Edge. La limite entre vraiment la techno pure back et front est en train de se réduire. Donc ouais, moi je suis un mec Nuxt, et puis en plus ils ont des logos avec de la montagne, et moi je viens de la montagne, j'habite en
Mais en
montagne.
plus, c'est pour ça qu'il
Donc
avait fait en plus.
c'est, si tu veux, Nuxt quoi, c'est il y a même pas débat. Voilà, terminé.
Écoute, moi, la question est difficile à répondre. Je dirais HTML parce que sans HTML, il n'y a
Ah
pas
putain,
de web.
il est bon, il est
Non,
bon,
je
il est bon,
déconne.
il est bon, il est bon, il est bon.
Non, je déconne. Non, moi, c'est des questions auxquelles je suis incapable de répondre parce que j'aime bien faire plein de choses, en fait. Donc, évidemment, alors, si je parle framework JS, j'ai fait beaucoup de Next, mais actuellement, effectivement, je préfère utiliser Next. parce qu'il est beaucoup plus facile à utiliser.
Je t'ai converti ou quoi? En deux secondes. Je t'ai converti?
Non, j'étais toujours fan de Vue et tout ça, mais... non, mais c'est juste que Next est devenu tellement complexe et moins développeur friendly, c'est-à-dire que c'est trop complexe. Enfin, après, ça se fait, hein. J'aime bien Next, j'adore React. Mais quand tu dois faire un truc, Next, c'est tellement facile à mettre en place, ça marche tout seul, machin, Vue avec Reactivity, tout ça, c'est génial. Donc ça, Framework JS, ouais, Next, tout ça, c'est génial. Après, il y a plein d'autres technos qui sont super, hein, Laravel avec LiveWire, enfin, il y a plein de trucs qui... Enfin, je suis incapable de te dire d'avoir vraiment une techno préférée. En fait, ça, moi, souvent, ça dépend du projet, en fait. Voilà, je prends la techno qui s'adapte le plus et qui correspond le plus. Voilà, plutôt que de... J'aime pas faire... avoir un seul outil et faire tout avec cet outil, en fait. Donc j'aime bien, voilà, si ce projet, il faut faire un WordPress, bah, parce que ça colle, voilà, parce que c'est juste un truc avec des pages, bah, WordPress peut faire le job. Si c'est une application, ouais, un Next. Si c'est voilà, un back-end, bah, peut-être Laravel avec... voilà, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a vraiment... ça dépend. Ça dépend. Puis ouais. Une fois, tu vois, par exemple, je devais faire une application, c'était au printemps, là, cette année. J'avais dit, je vais faire en Next. Et ils m'ont dit, l'agence m'a dit, ah mais non, parce qu'on ne maîtrise pas Vue en interne, donc ça sera du React. Bah, ok, bah, alors ça sera du Next. Tu vois, il y a aussi ça aussi qui rentre en compte. Tu vois, ça dépend qui reprend l'app derrière, tout ça. Donc, voilà.
Yes. Mais pour le coup, ouais, sur nos stacks, on a quand même des stacks de cœur, quoi. Tu vois.
Ouais, bah ouais.
Et évidemment, mais ouais. Yes. Pierre R9P, le podcast est très bien. Merci Pierre.
Merci.
Ça me fait super plaisir. Est-ce que vous allez faire plus de workshops? On aimerait. Oui, on aimerait. Hyper intéressant, si tu veux qu'on fasse plus de workshops, quel type de workshop tu voudrais qu'on fasse? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, ou même les autres personnes, hein, si vous voyez des workshops bien spécifiques. On ne dit pas qu'on va tous les faire, attention, mais voilà, il faut aussi qu'on ait un minimum de compétences sur le sujet, parce que sinon, ça ne nous paraît pas du tout pertinent et on ne serait pas pertinent. Est-ce que vous allez parler des technos un peu plus exotiques, par exemple du Haskell ou du Erlang? Est-ce que vous parlez, est-ce que vous pourrez parler des technologies à utiliser selon les différents cas? Clairement, du Erlang et du Haskell, tu connais, toi? Tu as déjà pratiqué? Tu as déjà joué avec?
Non, du tout. Et, bah, disons que nous, on est plutôt un podcast développement web, donc c'est plutôt web. Donc c'est vrai qu'on n'est pas. Voilà, ce n'est pas des langages qu'on maîtrise surtout. Donc c'est un peu. Enfin, perso, je suis un peu ridicule de parler de ces langages, parce que je ne maîtrise pas du tout. Donc on a tendance à plutôt parler des choses qu'on maîtrise, enfin, ou qu'on connaît en majorité, parce qu'après, des langages qu'on ne maîtrise pas du tout, puis après, est-ce que ça intéresse vraiment les gens de, voilà, sur des trucs vraiment, voilà, des petites niches et tout, je ne sais pas.
Alors, pour le coup, tu vois, moi, je pourrais reprendre le cours que j'ai donné, en fait, à des masters, où en fait, justement, on essayait de brosser toute la palette, en fait, de tous les langages possibles, imaginables, et pourquoi il y avait autant de langages, en fait. Ouais. Et en fait, chaque langage répond à un problème. Et en fait, quel a été le problème abordé, pourquoi on a créé ce langage-là, et quel paradigme il a. Et en fait, de comprendre, nous, en tant que développeurs web, ou même programmateurs, ou développeurs de manière sens large, de savoir qu'il y a plein de langages et de savoir à quoi ça sert et quel est le paradigme de ce langage, je pense que ça peut vachement nous aider aussi dans nos choix de carrière. C'est-à-dire, ok, moi, je veux aller là parce que... Et avec tous les impacts que ça a. Et je pense que oui, ça serait super intéressant de faire une palette, en fait, voilà, de faire un épisode très, très pédagogique, comme on peut le faire quand on présente une techno. Là, on prend un peu sur des fondamentaux, mais de savoir quel est le paradigme de, tu vois, du C, du Rust, pourquoi il est sorti, qu'est-ce qu'il amène sur le marché, Haskell, Erlang, Helm, tu vois, tout ça. Ça sort d'où? Pourquoi c'est sorti et quel est le paradigme de ce langage-là? Ça peut être super intéressant d'avoir ça, ouais, en fait, en termes de connaissances très théoriques, globales, quoi, clairement.
Les mecs qui ont créé Java, c'est parce qu'ils étaient payés à la ligne de code, c'est ça, non?
Ah, peut-être.
Ils avaient gagné plus d'argent.
Yes. Bah écoute, on a brossé toutes les questions qu'on a reçues ouais. aujourd'hui. On le redit, c'est un épisode questions-réponses aujourd'hui, donc on va s'arrêter là sur l'abord, sur la réponse des questions.
Oublié, hein. Si jamais on en a oublié une ou deux, désolé.
Ouais. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que on va refaire ce type d'épisode questions-réponses. Donc on vous invite en fait à mettre toutes les questions dans les commentaires, tout simplement, aussi bien du podcast, de Spotify ou de YouTube, et nous en fait soit on y répondra directement dans les commentaires, soit on pourra en fait l'extraire et on y répondra dans un épisode dédié, parce qu'on pense que ça peut être intéressant de développer la question au lieu de vous donner la réponse directement. Donc voilà, un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode, un grand merci, yep. Un petit pouce, un petit like, partagez l'épisode, ça fait toujours plaisir, et on vous dit à bientôt pour la suite, et on va rentrer dans la centaine, donc ça sera le prochain le 101, et c'est parti pour la centaine. C'est ciao, clair. Ciao, à bientôt.
Allez, ciao, merci, à plus.